national. Et dans la mesure où cette verticalité s'est révélée, dans cette mesure, on peut parler de vivre dans une civilisation avancée. Depuis 3000 ans, les civilisations bien avancées sont précisément les civilisations qui ont contribué à la révélation de la verticalité existentielle. Il y a un haut et un bas non politique, qui n'ont rien à voir avec la répression de l'être humain par l'être humain, mais par une sorte de dégradation, une formation d'une verticalité sans doute spontanée. Et la phrase « tu dois changer ta vie », c'est pour ainsi dire, dans l'air des civilisations avancées depuis ce moment-là. La révolution mondiale en marche. Mauvaise nouvelle pour les Français, dans la mesure où elles seraient encore fières de la révolution française, made in France. Mauvaise nouvelle, l'histoire mondiale n'a pas commencé en 1780. Un début absolu. Et bien sûr, Robespierre avait, dans une certaine mesure, raison de dire que la rêve de la philosophie est devenue réalité. C'était la phrase centrale du discours jacobin sur le programme ontologique de la Révolution française, réaliser la philosophie. Parce que la philosophie, c'est le discours de l'universel, et devant l'universel, tous les êtres humains sont égaux. Pas nécessairement libres, parce que la liberté, c'est une question un peu plus compliquée. Et la vérité est très simple, parce que par rapport à l'absolu, tous les êtres sont égaux, face à l'immense, face à l'infini, toutes les différences distinctes et définies reviennent à rien, à zéro. Mais la liberté est un peu plus compliquée, parce que la liberté dépend d'une tournure du sujet, s'il affronte l'ouverture de son existence ou s'il se détourne. Ça, c'est une différence essentielle dont dépendent beaucoup d'autres choses. Somme toute, je ne veux plus vous ennuyer par ces réflexions peu coordonnées qui expriment d'ailleurs une conviction qui est la mienne selon laquelle il n'y a pas d'introduction à la philosophie, parce que dans la mesure où on peut introduire, on s'approche sans jamais arriver. Et il vaut mieux risquer d'être bête dès le premier moment et de partager des bêtises, mais des bêtises authentiques, si vous voulez, des simplifications impardonnables et nécessaires. Que de s'installer dans une approche, une introduction permanente et qui n'aboutit pas. Je connais pas mal de collègues qui ont à peu près mon âge, c'est-à-dire en France, ils seraient déjà en retraite chez vous. Et donc on peut dire, sans les dénoncer, que leur mouvement intellectuel était rien d'autre que la prolongation d'une introduction à la philosophie par d'autres moyens. Par exemple, par l'enseignement. pire des tentations pour les philosophes. Parce que normalement, on enseigne trop tôt et on oublie ce qu'on voulait savoir. Mais si vous trouvez les jeunes gens devant vous cherchant des réponses, ou même simplement des techniques pour impressionner le monde académique, il faut leur répondre. Il ne faut pas leur promettre de rentrer chez eux les mains vides. J'ai beaucoup parlé des introductions parce que toute la problématique de la philosophie, c'est l'introduction. Il y a, comme le dit le proverbe français, il y a le premier cas qui coûte, mais on ne sait pas ce que ça coûte. Et parmi les connaisseurs, ça ne coûte que la tête. Mais devant un public français, on décide d'héritier des spécialistes, d'un traitement spécial peut-être, on décide de parler de ceux qui coûtent la tête. Voilà, c'est ce que je voulais dire à la place. Non. Pardonnez-moi. Donc, par votre présence, vous avez raté mon projet de rester silencieusement à côté. Et d'émaner les vibrations transcendantes. Je me suis laissé avoir. Vous m'avez imposé le devoir de parler à vous un peu, à côté du livre. Pas tellement sur le livre, comme la plupart de mes collègues, surtout des collègues de la faculté des arts. J'ai assumé l'habitude de ne pas commenter mes propres écrits, parce que si j'avais voulu commenter moi-même, vous trouverez mon commentaire dans le livre. Et il faut résister à la tentation de la production secondaire. Alors on fait du nouveau à côté, mais pour une fois, je vous demande une petite grâce. Je vous lirai tout simplement un petit passage qui sera pris du chapitre où j'introduis l'impératif réikéen, car il n'y aura aucun endroit qui ne te regarde pas, tu dois changer ta vie. Et après un chapitre consacré à Nietzsche, auquel j'attribue la qualité d'un, pour ainsi dire, d'un Schliemann, vous savez, notre grand archéologue qui a découvert, ou cru avoir découvert, les vestiges de la ville de Troyes. Je lui attribue les qualités d'un véritable Schliemann qui a fouillé au bon endroit, précisément à l'endroit où il fallait creuser pour découvrir les fondements cachés de notre civilisation qui sont le système des ancêtres. Pour l'exprimer d'une façon un peu plus moderne, nos systèmes d'entraînement. L'être humain est une créature qui vit dans des répétitions voulues, qu'on appelle exercice, et des répétitions non voulues, spontanées, qu'on appelle habitude ou automatisme. Donc les humains, toujours le champ de bataille entre automatisme et les automatisations qui mènent à la civilisation supérieure. Chacun de nous est, donc, pour ainsi dire, le résultat actuel de cette bataille. Et chaque jour, dans votre journal intime, vous devrez noter l'état actuel. Exister, c'est mener un protocole sur la réussite, les réussites de votre bataille individuelle. Après un chapitre consacré à Friedrich Nietzsche, découvreur de l'étoile ascétique. Nietzsche dit, vu de loin, de l'extérieur de l'espace, la Terre ressemblerait pour un observateur extérieur comme l'étoile ascétique avec ascétique Stern. C'est un endroit où les gens font un effort pour nier ce qu'ils sont et pour devenir autre chose. Et Nietzsche, le commentaire de Nietzsche à cette aspiration est très clair. Vous avez tout à fait raison de vous nier dans votre état actuel, mais vous avez absolument tort de vous nier dans la perspective traditionnelle. Parce que les aspects de la mortification ne mènent à rien, sauf à rendre la condition des réserves de ressentiment. Mais vous avez tout à fait raison à comprendre que l'existence humaine exige des efforts supplémentaires. Nous sommes des êtres qui ne peuvent pas se laisser aller. Qui doit entreprendre des efforts supplémentaires. Le mot culture n'est rien d'autre qu'un autre terme plus paisible pour effort supplémentaire, un effort vers le haut, un effort dans la verticalité et dans la tension verticale sous laquelle l'existence humaine devrait se trouver au moment où la révélation de la dimension verticale dans les civilisations avait commencé. Je voulais un petit passage. Du chapitre consacré à Madame Maria. Le poème, d'abord, Tops Arcaïde d'Apollon, nous n'avons pas connu sa tête prodigieuse, où les pupilles mûrissaient, mais son torse, encore lui ainsi qu'un candélabre, dans lequel son regard frillait vers l'intérieur, s'est fixe et étincelle. Sinon, tu ne serais ébloui par la poupe du sein, et la légère volute des reins ne serait parcourue du sourire qui s'en va vers ce centre où s'érigea le sexe. Et la pierre, sinon, écourtée, déformée, serait soumise sous le linteau diaphane des épaules, et ne scintillerait comme fourrure forme, ni ne déborderait de toutes ses limites comme une étoile. Car il n'y a point qui ne te voit, tu dois changer ta vie. C'est la traduction de Jacques Legrand, œuvre poétique. Tu vas changer ta vie. Quel est l'impératif? Et celui-ci dépasse l'alternative entre l'hypothétique et le catégorique. C'est l'impératif absolu, l'ordre métanoïaque par excellence. Je me permets d'ajouter que la France est devenue le pays promis d'un nouvel appel métanoïaque, parce que depuis Jean-Baptiste, on n'a jamais vu un tel retentissement d'une simple phrase adressée aux concitoyens d'une nation moderne. Jean-Baptiste s'adressait au peuple juif en disant « métanoïaque », ce que normalement on a traduit par « repentissez ». C'est un essai là, a eu le bon goût de traduire un peu différemment. L'impératif métanoïaque a été traduit par lui, comme vous savez, par la formule indignez-vous. Ce qui est psychologiquement plus intelligent, parce que cela permet aux ceux qui reçoivent le message de laisser ouvert la question s'ils doivent s'indigner d'eux-mêmes ou des autres. Et il me semble que il y a pas mal parmi ceux qui m'ont reçu le message qui m'ont voté pour la deuxième hypothèse. D'ailleurs, mon livre, à mon tour, n'a pas échappé à ce destin, parce que je viens de noter, notamment pendant les ventes de Noël en 2009 et 2010, que selon des informations intimes, il y aurait eu des couples qui se sont donné ce livre mutuellement. Parce que ils ne se trouvaient pas évidemment concernés et ils se disaient c'est précisément ce que je voulais dire à ce cela pour commenter un peu le mot ordre métanoïaque. Il est rentré en France. La France est redevenue la fille aînée de l'impératif absolu, de l'impératif même métanoïaque. On va voir ce que ça donne, si les mouvements d'une nouvelle religion baptiste va naître de ces points de la surface de la Terre. C'est l'impératif absolu, l'ordre métanoïaque par excellence. Il donne le mot-clé de la révolution à la deuxième personne du singulier. Il définit la vie comme une dénivelée entre ses formes supérieures et ses formes inférieures. Je vis certes déjà, mais quelque chose me dit avec une autorité irréfutable, tu ne vis pas encore comme il le faut. L'autorité lumineuse de la forme jouit du privilège de m'interpeller en disant « tu dois ». C'est l'autorité d'une autre vie dans cette vie. Cette autorité m'atteint dans une insuffisance subtile, plus ancienne et plus libre que le péché. Elle est mon pas encore le plus intime. Dans mon moment le plus conscient, je suis touché par l'objection absolue contre mon statu quo. Ma transformation, voilà ce qu'est le champ. Si là-dessus tu changes réellement de ta vie, tu ne fais rien d'autre que ce que tu vois toi-même avec ta meilleure volonté. Dès que tu sens comment une tension verticale, dont tu considères qu'elle a pour toi une validité, fait sortir ta vie de ses mondes. À côté de cette lecture éthique et révolutionnaire, les interprétations un peu plus concrètes et psychologiquement plus séduisantes du poème sur le torse s'offre à nous. Rien ne nous force à cantonner le commentaire aux strates supérieures de la philosophie de l'art et de l'être. Il est peut-être possible de reconstituer de manière encore plus plausible l'expérience d'autorité qui, pour un moment, captive le poète dans la statue antique. Ici, il faudrait parler des impressions somatiques, ou plus exactement auto-érotiques, masculines et athlétiques, laissées par la sculpture, qui ont forcément suscité dans l'esprit du poète, lequel était, pour employer le langage de son époque, un neurasthénique et un introverti malingre, une projection de soi dans le mode d'être antipodique, le long du corps et de sa force. À cela correspond un fait que Rick n'ignorait pas. Dans la culture immensément riche de statues chez les Grecs, il y avait entre les dieux et les athlètes un état de parenté physique et psychique dans lequel l'analogie pouvait aller jusqu'à l'équivalence. Un dieu était toujours aussi une sorte de sportif, et le sportif, surtout celui qui était célébré dans les loges et couronné de lauriers, était toujours une sorte de dieu. Et dès lors, le corps des athlètes qui imite la beauté et la discipline pour former une propension autonome à bondir s'offre comme l'une des occurrences les plus compréhensibles et les plus convaincantes de l'autorité. Le corps, faisant autorité de l'athlète Dieu, agit immédiatement sur l'observateur par son caractère exemplaire. Lui aussi dit, la lumière, tu dois changer ta vie. Et en le disant, il montre du même coup sur quel mode doit s'orienter sa transformation. Permettez-moi une petite interjection. Nous avons reconstruit le monde platonique du corps, le modèle, parce que jamais avant notre époque, l'autorité des corps, des beaux corps qui parlent, hein, était tellement forte aujourd'hui. De carrément parler d'une sorte de terrorisme, des beaux corps qui nous entourent, surtout au niveau des images. Heureusement, les beaux en trois dimensions ne sont plutôt rares. Mais au niveau de l'imaginaire, de la réalité construite par le visuel, ils sont en forme impressants. Donc une sorte de bombardement de notre existence vers cette orientation de l'individu. On peut déceler en ce modèle comment l'être et l'être exemplaire convergent. Chacune des statues classiques était une autorisation taillée dans la pierre ou coulée dans le bronze d'enseigner des affaires mystiques. Et ce que l'on appelait le platonisme, ce qui était pour le reste plutôt une affaire non grecque, ne put trouver un foyer en Grèce que dans la mesure où ce que l'on appelait les idées y avait déjà le droit de citer sous forme de statues. Les idées préexistaient au platonisme sous la forme des statues. L'amour platonicien était populaire et bien ancré quelque temps déjà avant Platon sous forme d'affect d'entraînement entre celui qui était somatiquement parachevé et ceux qui débutaient dans les exercices. Et cet éros agissait dans les deux directions du modèle vers celui qui le copiait autant que de celui qui désirait vers son modèle. Le modèle schéma classique de l'Erastes et de l'Héroménos. Mais je ne voudrais certainement pas laisser mon imagination prêter à la vie qu'une relation narcissique avec un fragment exposé au Louvre, à la magnificence du culte des corps masculins dans la Grèce antique. Il est cependant plausible que l'auteur du soleil et décelé dans le top soyeur qui lui faisait face. Quelque chose de la force rayonnante de l'antique vitalisme des athlètes et de la théologie musculaire des lutteurs dans la palestre. La différence de vitalité entre le corps rebossé et le corps profane doit l'avoir interpellé de manière immédiate, même face à une simple relique de la divinité transfigurée. Donc, je voudrais donc prêter à Rick une sorte de participation à un événement pour lequel je propose le terme renaissance somatique, renaissance affective, un élément qui est presque précisément de la part de la renaissance affective qui commençait avec les premiers Jeux Olympiques organisés en avril 1896 à Athènes. Et surtout avec la victoire d'un jeune berger grec, qui a remporté le premier course de marathon dans le costume classique des bergers grecs dans la Frisanella, remporté la victoire de la première véritable grande course de toute séance. L'actualité du malin athlétique dans le torse, toujours illuminé et instructif, contient un élément d'énergie focalisé vers un but que j'aimerais désigner comme une autorité d'entraîneur. Tu vas changer ta vie, c'est en même temps la voix d'une conférence classique, une figure qu'on peut appeler entraîneur. Et au cours de mon livre, vous allez voir que je n'hésite pas à appeler des héros de la culture, comme Goethe et Shakespeare, mais aussi les grands maîtres de la tradition spirituelle, comme le Bouddha, le Christ, les entraîneurs. Ça va être important, croire en Jésus, de vivre, s'entraîner avec lui. Et si vous ne croyez pas, vous n'entraînez pas. Religion est entraînement et rien d'autre. Et pour cette raison, il faut laisser tomber le concept de religion parce qu'il rend paresseux. Si vous dites je suis religieux, je vous réponds vous êtes paresseux. Et si vous me dites je m'entraîne 5 fois par semaine, je vous dis vous avez tout compris. Et maintenant, si vous acceptez que c'est l'entraîneur qui parle, vous pouvez peut-être le suivre dans le dernier paragraphe que je voudrais présenter aujourd'hui. Et il vous parle, j'amplifie la phrase qui va changer, je l'amplifie un peu, et vous entendez une voix qui pourrait rassembler à celle de votre enseignement de sport. Abandonne ton penchant pour les modes de vie confortables. Montre-toi au gymnase, sans oublier que en grec classique, le mot gymnase signifie nu, essentiel. Donc, le gymnasium, c'est l'endroit du nudisme appliqué. Prouve que la différence entre parfait et imparfait n'était pas indifférente, montre-nous que la performance, l'excellence, avec l'arrêté, en italien, virtù, ne sont pas restés pour toi des mots étrangers, admet qu'il existe pour toi des motivations pour produire de nouveaux efforts, et surtout, n'accorde que l'espace qui lui revient au soupçon selon lequel le sport et les choses réservées aux plus bêtes. Il n'en a plus pas comme un prétexte pour continuer à dériver dont on a laissé aller comme coutumier. Mais tu vois du Philistin à toi qui pense que tu es ce que tu es déjà à peu près comme il faut. Écoute la voix venue de la pierre, ne résiste pas à l'appel à la forme, saisis cette occasion de t'entraîner avec un Dieu. Je vous remercie. Merci.
Avant de passer à la signature du livre, est-ce qu'il y aurait eu deux questions dans la salle? Sinon, je vais tout de suite passer à la signature du livre. Ah, quelle question là?
Je reviens quand même d'ici une question belle. En fait, à un moment donné, quand vous avez commencé à lire, quand vous avez dit le but du droit, il y a quand même aussi une autre expression, enfin une autre perception de ce livre de simple regard.
C'est-à-dire, est-ce qu'il y a aussi
le mouvement,
quelque chose qui vient de la voix. Et c'est ça qui me fait parler maintenant. Vous avez raison. La langue française, merveilleusement, possède un jeu de langage qui incarne ce que dans d'autres langages devrait être construit de façon beaucoup plus indirecte. Vous l'avez déjà dans la poche, il suffirait de sortir de votre vocabulaire, de votre idiomatique, ces formules, et vous y êtes.
Une remarque qui n'a rien à voir. Je ne crois pas que les nouvelles technologies ont tué les maîtres. Je crois bien au contraire que les nouvelles technologies font naître des maîtres partout. En France, il y a très longtemps, quelqu'un a dit « Mon maître, cela génère une activité d'entrailles. » Et je crois que les Français ont toujours besoin d'activité d'entrailles et donc besoin de maîtres. Quant à nos amis allemands, que vous connaissez mieux que moi, ils ont besoin d'être des Meistern, parce qu'ils ont besoin de Meistern. Donc ils ont besoin de la puissance sur les choses, et alors ils deviennent aussi des maîtres. Je crois que nous vivons encore l'ère de maître, et moi-même, je suis un maître à penser. Mais
supplémentaire, il y a des maîtres, bien sûr. Mais les maîtres qui laissent de plus en plus tomber leur accompagnateur sénile éternel qui était le gouvernant. Il y a des maîtres d'une nouvelle qualité, des maîtres de la liberté, c'est ça, des maîtres de la compétence, des maîtres qui reflètent plutôt la valeur sémantique du mot champion que. La valeur sémantique du mot Seigneur. Et la sénéralité est la grande perdante de la modernité. Il ne faut pas la regretter. Mais les championnats sont partout, heureusement, parce que le monde a besoin des gens compétents plus que jamais. Plus que jamais, parce que l'art de coexister avec. Quelques milliards de misérables connus sous le titre des êtres humains. C'est quelque chose d'assez exigeant et compétence oblige. Alors, mes félicitations pour votre maîtrise.
Mais c'est bien là que le titre du livre prend tout son sens. En conscience de cela, que je dois accepter de me dire à moi-même tu dois changer ta vie.
Voilà. Je crois que après lecture, on sera d'accord.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Et à la fin, je me suis demandé, parce que votre conclusion parle du système immunitaire. Alors, quand on lit votre livre, et brusquement, en conclusion, on trouve le système immunitaire, on est un tout petit peu, on se pose un peu la question, mais qu'est-ce que vient faire ici le concept de système immunitaire? Et en fait, dans, vous connaissez sans doute la fameuse phrase qu'on trouve dans le texte de Terence, où un père reproche à son fils de fréquenter des filles joies. Et le fils lui répond, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et je me suis demandé si tu dois changer ta vie, mais tout simplement pas. Une nécessité comportementale humaine, et peut-être pas seulement humaine, parce qu'on trouve également chez les primates, d'autres primates, des choses comme ça, où on oblige les individus à changer de comportement. Je me demande surtout, pour le primate humain qui est immature à la naissance, si en fait, tu dois changer ta vie, ne reflète pas le fait que tu es d'abord un enfant, tu es d'abord quelqu'un qui ne sait rien, qui ne peut rien, rien faire, et donc qui a besoin de maître, qui lui disent, mais maintenant mon vieux, tu n'es plus un petit, mais un grand, et donc change ta vie.
Change ta vie, exactement. Mais je crois que la découverte de la pédagogie possède son centre de gravitation dans cette expérience. Les Grecs possédaient un mot merveilleux qui représentait le nucléus de l'idée de l'éducation selon le sophisme. Hein. Qui possède malheureusement une mauvaise réputation, méritée et non méritée en même temps. Ce terme, c'était le mot grec amechamia. Ce qui veut dire démuni de la métamène, c'est-à-dire du truc qui facilite la vie, qui permet. Mécanisme, c'est la ruse. En italien, c'est le truc qui nous fait vivre. Donc, la technique, pour ainsi dire. Et au centre de l'idée de la formation de l'être humain, selon les philosophes sophistes en grec, tout simplement selon les enseignants grecs, c'était de rendre l'être humain capable de maîtriser la quasi-totalité des situations moyennes que l'existence humaine peut rencontrer. C'est-à-dire qu'on produit, on veut former un être humain qui peut faire face à son destin. C'est ça l'idée de la palaya grecque. Et comme vous avez cité le fameux théorème de l'immaturité innée de l'être humain, nous sommes nés avec la nécessité de créer un supplément d'immunité, parce que l'immunité innée ne suffit pas. L'être humain doit créer des systèmes d'immunité supplémentaire d'ordre supérieur, immunité symbolique, immunité sociale, immunité juridique. Je me réfère, par exemple, à un mot fameux du penseur sociologique qui était Niklas Luhmann, qui disait le système judiciaire, le système du droit, et le système immunitaire du système social. Je crois que c'est littéralement vrai, parce que le droit et ce supplément d'immunité dont les êtres humains ont besoin pour combler les lacunes créées par leur ouverture au monde. Nous sommes trop ouverts. Est-ce qu'on serait un peu plus comme les rochers? On n'aurait pas besoin d'un système nerveux, ni d'un système immunitaire, mais étant tellement fragile, tellement déjà physiquement, physiologiquement, ouvert au monde, l'existence humaine dans les collectifs éthiques comme au niveau des individus, c'est une création permanente d'enveloppes protectrices. Et comme l'être humain ne peut pas se passer de protection, il faut réfléchir de créer des protections mutuelles. Le mutualisme au niveau de la protection sociale, la protection élargie, c'est ça la question de la vie contemporaine. Parce que nous avons découvert, à notre très grande épouvante, que nous sommes des contemporains de milliards d'êtres humains qui pourraient devenir facilement des concurrents, même des adversaires, au cas pire des animaux. Je vous remercie.
Merci beaucoup. On peut plus sur vos sujets technologiques. Merci beaucoup. Thank you.